Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du Pod. Aujourd'hui, nous allons parler de planning éditorial sur les réseaux sociaux. Pour ce sujet, je suis accompagnée de Brian qui m'a tout appris sur le sujet justement. Bonjour Brian.
Bonjour Gwen.
Tu vas bien ?
Très bien, très bien. Écoute, j'ai vraiment hâte de parler de ce sujet-là qui me passionne.
Alors, nous avons choisi ce sujet car selon nous, c'est un petit peu la base de notre métier. Quand on travaille dans le social media, et plus précisément en tant que community manager, tout commence par ce fameux planning éditorial. C'est un peu notre base de travail, comme je disais, celui qui nous rappelle que l'on a des publications en attente, de préparation ou de validation, et celui qui va nous donner une vision sur notre semaine, sur le mois, l'année, comme on veut, de notre communication sur les médias sociaux. Et tout naturellement, je ne pouvais pas avoir d'autres invités aujourd'hui que Brian, donc celui qui m'a tout appris sur le sujet il y a un peu plus d'un an maintenant, et tous ses petits secrets. Alors, commençons à découvrir ensemble ce sujet. Alors, la toute première question que je vais te poser, Brian, c'est est-ce que tu pourrais nous dire, simplement pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un planning éditorial ?
Alors, le planning éditorial, c'est un outil de gestion de projet éditorial. C'est ni plus ni moins du coup qu'un outil de gestion de projet qui va nous permettre de suivre finalement l'état d'avancement de la production des contenus qu'on a à réaliser pour les réseaux sociaux. Donc ce qu'on a à produire, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on attend encore et puis éventuellement qu'est-ce qu'on a à programmer. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est au cœur du quotidien du community manager, et au-delà du suivi global de l'état d'avancement, ça permet aussi de respecter les échéances et puis également la qualité des contenus, de ne rien oublier. De s'assurer que le ton est bon, que les termes choisis sont les meilleurs, etc. Et que le client puisse valider les contenus, puisque les clients doivent valider aussi les publications qui seront faites. Il y a une idée reçue, par contre, sur le planning édito, oui. Qu'on a souvent. Le planning édito, c'est pas un calendrier des temps forts annuels. C'est pas la même chose.
C'est deux choses différentes.
C'est deux choses totalement différentes. Là, on est début 2020, on a vu fleurir depuis deux mois là, des calendriers des temps forts de l'année 2020 avec toutes les dates à retenir, etc. Ça, c'est précieux pour nous parce que ça nous permet d'identifier des opportunités de prise de parole, des choses qu'on pourrait proposer à nos clients. Donc c'est vraiment sur la phase, la toute première phase, sur l'identification des sujets. Mais le planning édito, c'est vraiment une fois qu'on a défini le sujet à traiter, ben on va vraiment suivre toute la phase de production.
Donc ce calendrier annuel dont tu parlais, lui, il peut être ajouté à notre planning éditorial.
Voilà, ça peut nous aider quand on est en phase de production, peut-être à trouver aussi de nouvelles idées, mais c'est vraiment deux choses qui sont très distinctes. Okay. Vraiment, le planning édito tel qu'on le conçoit chez nous, c'est vraiment un outil de gestion de projet éditorial.
Ok. Donc je disais au début que nous, à l'agence, et pour toute personne qui travaille dans le social media, c'était un peu notre base de travail. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que c'est notre base de travail et pourquoi est-ce que c'est si important pour un community manager ou un social media manager ?
Alors, c'est une question qui revient tout le temps dans le métier. Il suffit d'aller sur les forums qui sont dédiés au community management sur Facebook, par exemple. C'est une question qui revient à peu près toutes les semaines. Comment vous faites votre planning édito, quels outils vous utilisez, etc. Ça, c'est vraiment la base. Qu'est-ce qui fait que ça revient souvent ? En fait, c'est un outil qui permet vraiment d'assurer une présence durable sur les réseaux sociaux. Ce qui permet de se dire, une marque qui commence à aller sur les réseaux, elle va avoir une vraie présence à long terme et s'assurer que c'est supports sont animés de façon régulière. En fait, ça permet vraiment d'assurer une efficacité dans la prise de parole et puis surtout de respecter trois grandes pratiques de notre métier. La première, déjà, c'est d'être régulier. de publier sur une fréquence bien définie et de s'assurer que cette régularité, elle est plus ou moins respectée. La régularité, c'est bon pour deux choses. D'abord, pour les algorithmes de réseaux sociaux, parce que les algorithmes aiment les supports qui sont animés régulièrement. Mais ça permet aussi, pour les gens qui suivent les supports, l'audience, d'avoir des rendez-vous et donc de rester vraiment présent auprès de son audience. Ouais. Il y a une deuxième bonne pratique qui est fondamentale dans notre métier, c'est la diversité. La diversité, que ce soit les formats, des vidéos, des images, des liens, etc., mais aussi la diversité des sujets. La diversité des sujets, c'est pareil. Ça, c'est déjà bon pour l'algorithme, parce que ça permet de lui envoyer un indicateur comme quoi on est capable, finalement, de publier des contenus qui sont hyper riches. Mais pour l'audience, bah, ça lui évite de se lasser. Parce que si vous racontez toujours la même chose, les gens vont, finalement, à un moment donné, arrêter de vous suivre. Donc ça permet vraiment d'éviter cette lassitude. Puis la troisième bonne pratique, ça permet de publier au bon moment, de respecter le timing finalement, de s'assurer que si l'audience elle est très connectée par rapport aux produits qu'on vend le mercredi soir, eh ben, s'assurer que tous les mercredis on ait bien une publication qui soit prévue. Donc voilà, ça permet vraiment de respecter ces trois bonnes pratiques, et moi je pense que sans planning édito, on ne peut pas concevoir sa stratégie sur les réseaux sociaux à long terme, c'est pas possible.
Oui. Et justement, là, je pense à ça, là, que tu parles de cette vision que le planning éditorial nous permet d'avoir sur ces contenus. Ma prochaine question, c'est à quoi est-ce que ça sert exactement ? Et du coup, je pense que l'une des premières choses, c'est d'avoir justement cette vision. Hein.
Ça permet vraiment de savoir tout ce qui est prévu sur la semaine à venir, le mois à venir, même l'année à venir, de s'assurer que quand on a une idée, par exemple, d'un sujet qu'il faut absolument aborder, mettons que vous allez chez un client demain et le client vous dit « Voilà, en juin, je vais être présent au Web Today, c'est l'événement local à Nantes, donc voilà, je vais y être présent, il faut absolument qu'on pense à communiquer sur cet événement. Il faut qu'on pense à... » le planning édito, ça va nous permettre déjà tout de suite de positionner des premières publications à effectuer en amont de l'événement pour annoncer la présence, se dire aussi que bah, sur les 2-3 jours d'événement, il faudra bien penser à faire une couverture live, etc. Enfin, vraiment de se dire qu'on n'oublie rien et qu'on a une vraie vision de long terme.
Oui, c'est un peu un pense-bête pour l'avenir, parce que ouais. Penser... on a une info au mois de janvier pour quelque chose à faire au mois de juin... Personne voilà. Ne peut s'en rappeler.
Si vous n'êtes pas bien organisé, vous risquez vite de l'oublier et ça passe à la trappe. Ouais. Et en plus, si ça passe à la trappe, il n'y a rien de pire, parce que du coup, ça décrédibilise le métier. Voilà, on a déjà parfois des difficultés à expliquer concrètement comment on travaille. Donc si en plus de ça, on oublie les choses, c'est problématique. C'est pour ça que moi, je le positionne vraiment sur la partie gestion de projet. Parce que dans la gestion de projet, il y a un enjeu, c'est le respect des échéances et la qualité de la production. Et ça nous permet vraiment de ne rien oublier et d'être sûr que ça soit fait en temps et en heure.
Oui.
Alors, le planning édito, du coup, à quoi il sert ? En fait, c'est ni plus ni moins que comme quand vous allez produire un bien physique. Quand on produit quelque chose en physique, on a plusieurs étapes à suivre, de la conception à la fabrication, à la diffusion sur le marché. Ben, c'est la même chose. En fait, le planning édito, une fois qu'on a une idée de sujet, ça va nous permettre vraiment de suivre toutes les étapes de production. Donc, le choix du sujet, l'objectif de la publication qui est effectué, qu'est-ce qu'on cherche à faire derrière, quel format on va adopter et quel angle, quel mode de traitement de l'information on va adopter, pour quand, éventuellement, cette publication-là, elle est prévue, quel jour et voire quelle heure. Et puis, après, ça va nous permettre aussi, pour chaque contenu, de pouvoir avoir un espace de dialogue. L'idéal d'un bon planning édito, c'est, j'ai une publication qui est prévue, par exemple, mercredi prochain. Je sais quel sujet je dois aborder, je sais quel format je dois employer, quel angle. Je vais être aussi en capacité de savoir où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai récupéré les infos auprès de mon client ? Est-ce que j'ai déjà commencé à faire le visuel ? Est-ce que le visuel est validé, mais pas encore l'accroche ? Etc. On sait vraiment où est-ce qu'on en est, que ce soit pour nous, en tant que community manager, social media manager, mais aussi pour le client. Il sait exactement où est-ce qu'on en est, il n'a pas besoin de nous appeler en nous disant « T'en es où là-dessus ? J'ai pas eu encore le temps de valider le contenu, est-ce que tu peux me le renvoyer ?» etc. Là, c'est vraiment un outil qui permet de centraliser toute cette étape de production. Puis après, il y a l'étape aussi de diffusion. Ça permet de savoir, une fois que le client a validé le contenu, de savoir quels sont les contenus qu'il faut programmer, quels sont les contenus qui sont déjà publiés, etc. Donc on a vraiment cette vision globale de où est-ce qu'on en est et ce qui est prévu pour les mois à venir. Et ça nous permet, du coup, comme on le disait, d'avoir une vraie vision macro à long terme des prises de parole d'une marque sur les réseaux sociaux. Et puis du coup, ça évite de s'éparpiller et ça permet de garantir une forme d'homogénéité aussi dans la prise de parole. Voilà, c'est d'autant plus difficile quand on est tout seul. Je veux dire, si on travaille chez l'annonceur et qu'on est seul à gérer les réseaux sociaux, le planning édito, il peut être fait presque sur un petit coin de table ou avec un petit outil très basique. C'est assez rapide à mettre en œuvre. Ce qui devient compliqué, c'est quand on est plusieurs à gérer le projet édito, où on a la personne qui produit le contenu, on a le client qui valide le contenu, on a souvent la personne qui va programmer le contenu, et puis on a aussi les contributeurs, ceux qui vont nous envoyer des idées, les images, pour illustrer le propos, etc. Et donc dès qu'on va commencer à avoir plusieurs personnes autour de la table, on ne peut pas travailler son planning édito, ça me paraît impossible. Enfin, je veux dire, sinon on n'atteint pas les objectifs, et puis surtout on ne respecte pas les échéances, hein, ça devient vraiment très compliqué.
Oui. Il faut réussir à être organisé pour être efficace dans son travail.
Oui, tout à fait. Mais vraiment, encore plus quand il y a du monde autour de la table. Et sur le sujet des réseaux sociaux, il y a toujours du monde autour de la table. Toujours.
Ça marche. Pour passer au côté un petit peu plus outils, est-ce que, donc maintenant qu'on a bien vu ce que c'était, pourquoi c'était important, comment est-ce qu'on s'en sert et tout ça, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des outils qui existent, ceux que tu connais
Alors, en fait, il y a trois grandes typologies d'outils aujourd'hui qui permettent de faire des plannings édito. On en voit plein chez nos clients ou même dans nos expériences passées. Le premier outil qu'on voit souvent, qui d'ailleurs ravit énormément de personnes, c'est le bon vieux tableur. Le tableur sur Excel ou sur Google Sheets, comme vous voulez, mais c'est ce bon vieux tableur où on a une colonne et des lignes, et puis sur chaque ligne on va avoir des idées de publication, à quel jour c'est prévu, pour quel réseau, etc. Ça fonctionne assez bien, et puis en plus, bon, j'ai envie de dire que tout le monde a plus ou moins Excel sur son ordinateur ou Google Sheets, donc du coup c'est l'outil qui est quand même assez répandu aujourd'hui pour faire des plannings édito. Le problème, c'est que je connais pas beaucoup de gens qui adorent aller sur Excel tous les jours pour faire un suite de production. Moi, j'adore ça, mais j'en ai pas rencontré beaucoup qui étaient aussi fans que ça dans ma carrière. Mmh. Et ça pose un autre problème, le tableur Excel, c'est qu'on n'a pas de vue calendaire. En fait,
oui.
On a des lignes.
Passer du temps à le faire nous-mêmes, quoi.
Voilà, mais on ne sait pas exactement si on va avoir un calendrier sous les yeux, comme on pourrait l'avoir avec son agenda. Mmh. Et ben on ne sait pas. Donc on n'a pas cette vision de est-ce que finalement nos publications sont régulières, etc. Donc ça peut avoir cette difficulté de lisibilité. Et puis il y a un autre problème sur les tableurs, c'est que parfois c'est un peu difficile de gérer les commentaires des uns et des autres. Si vous voulez, pour un contenu, pour une publication, que chacun aussi puisse dire où est-ce qu'on s'en est, etc., ça peut devenir compliqué. Alors, ça se fait de mieux en mieux, mais c'est encore un peu complexe. Il y a une deuxième façon de faire, que j'ai déjà vue, qui peut bien fonctionner, c'est d'utiliser Google Agenda. Ça paraît trivial, mais ça peut fonctionner. Google Agenda, l'avantage, c'est qu'on résout le problème précédent de la vue calendaire. On sait exactement qu'est-ce qui est prévu le lundi, le mercredi, puis on peut identifier des trous dans le planning. La difficulté, c'est que Google Agenda, souvent, on s'en sert aussi pour gérer ses rendez-vous.
Ouais.
Et du coup, on va avoir, même si on a des codes couleurs, on va mélanger les usages, en fait. On va mélanger la prise de rendez-vous avec les contenus à publier sur les réseaux sociaux, donc ça peut être complexe. Mmh. Puis là, c'est difficile aussi de suivre la production et d'avoir un espace de commentaires. Et puis du coup, il y a un troisième type d'outil là, qui émerge vraiment beaucoup depuis plusieurs années, c'est les outils de gestion de projet. Qu'on détourne de leurs usages initiaux. Le plus connu, par exemple, c'est Trello. Trello, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui l'utilisent pour faire des plannings édito.
Quasiment tout le monde, d'ailleurs.
Quasiment tout le monde. C'est d'ailleurs l'outil qu'on utilisait, nous, à l'agence, jusqu'en 2018. Enfin, bon, maintenant, on a un peu changé notre fusil d'épaule parce que Trello était un peu limité, mais Trello, ça fonctionne bien pour faire un planning édito.
Ok. Alors justement, tu disais qu'on avait changé de fusil d'épaule en 2018. Mmh. Alors, quel est, nous, notre outil en interne?
Alors, en fait, nous, aujourd'hui, on utilise un outil qui fonctionne un peu comme Trello, qui est, d'ailleurs se positionne exactement sur le même segment de marché, qui s'appelle Zenkit. Zenkit, c'est un Trello-like. Et en fait, c'est à la base d'un outil de gestion de projet pour lequel on a vraiment affiné l'usage. On a changé pour cet outil-là parce que il était plus personnalisable selon nous. Il permettait de créer plus facilement des codes couleurs, par exemple, pour chaque contenu. Un code couleur, par exemple, pour définir l'état d'avancement. Est-ce qu'il est à faire, en cours ou terminé ? Avec du bon vieux rouge, orange, vert. Ça, c'était quand même le truc qui était hyper important pour vraiment être plus efficace.
Ouais, c'est visuel. Hein.
C'est plus visuel. Alors, comme Trello, ça nous permet quand même d'avoir des commentaires pour chaque publication sur la carte. Donc ça, ça change pas. Mais surtout, pourquoi on a changé ? C'est que ça nous permet, pour toutes les marques qu'on gère, d'avoir un espace qui s'appelle Mon Calendrier, où on va retrouver pour toutes les marques qu'on gère, toutes les publications qui sont prévues pour demain, pour dans 2 jours, pour dans 3 jours, et on saura tout de suite où est-ce qu'on a du retard. Peu importe la marque qu'on gère, ça va vraiment unifier finalement les publications. Et puis il y a un autre intérêt aussi à Zenkit qu'on ne retrouvait pas trop dans Trello, c'est la possibilité de créer des filtres pour filtrer sa vue. Aujourd'hui, par exemple, tel qu'on l'utilise, on va avoir pour chaque planning édito de nos clients dans Zenkit un filtre qui va nous permettre de savoir exactement de n'afficher que les publications qui sont prévues pour Facebook. Et on pourrait aussi créer un autre filtre pour n'afficher que les publications pour lesquelles on n'a pas eu encore de validation du client.
Oui.
Donc voilà, et ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus efficace. Voilà, maintenant il y a encore d'autres outils qui existent, il y en a beaucoup beaucoup sur le marché.
Oui, d'ailleurs je pensais à ça, je t'ai pas demandé, mais pour les outils de planning éditorial, avant de parler justement de Zenkit, j'ai pensé à ça. On entend de plus en plus parler là, des outils de programmation comme Buffer ou Swello qui ont leur propre planning éditorial. T'en penses quoi de ces outils-là ?
En fait, ils sont utiles, mais ils sont utiles quand les contenus sont déjà validés par le client. C'est-à-dire qu'ils sont déjà validés, ils sont même déjà programmés. C'est-à-dire que ces outils de planning édito, ils sont bien pratiques parce que quand tout est calé, si le client nous dit qu'est-ce qui est prévu pour dans un mois et qu'est-ce qui est déjà validé, ces outils-là vont vous dire voilà ce qui a déjà été programmé sur la plateforme.
Oui.
En revanche, c'est que quand c'est terminé.
Voilà, on ne peut pas s'en servir pour la phase de préparation.
Voilà, on ne peut pas s'en servir pour dire qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire, qu'est-ce qui est prévu par réseau, etc. Donc c'est un peu compliqué. Puis il y a une deuxième difficulté sur ces outils-là, c'est que parfois, vous avez un outil qui ne va peut-être pas prendre en charge tel réseau social.
Ouais.
Par exemple, vous avez la plupart des outils aujourd'hui ne prennent pas en charge Snapchat. Si vous avez une présence sur Snapchat, vous ne pourrez pas avoir un planning édito par exemple dans Buffer qui va vous permettre de voir toutes les publications que vous avez prévues dans Snapchat, ce qui fait que ça va être un peu limité à un moment donné, vous allez être à l'étroit. Voilà, c'est pour ça que nous on n'utilise pas trop les calendriers édito, enfin les fonctionnalités qui sont proposées par les outils de programmation, et qu'on a vraiment le nôtre qu'on va pouvoir personnaliser à 100% dans Zenkit. Ce qui fait que chez nous on dissocie du coup 2 types d'outils. Zenkit qui nous permet vraiment de faire le planning édito, vraiment le suivi de la production des contenus, jusqu'à temps que le client nous valide le contenu. Et après, les outils de programmation qui vont nous permettre, une fois que le contenu est validé, d'aller les programmer, soit directement sur Facebook, avec Creator Studio, soit sur Buffer pour Twitter et Instagram, soit sur Swello pour LinkedIn. C'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on l'utilise aujourd'hui. On a vraiment ces 2 typologies d'outils.
Ok. Ensuite, j'avais envie d'avoir ton avis, plus sur le côté expérience, conseil. Donc, toi, quels seraient tes petits conseils, justement, tes bonnes façons de faire pour un bon planning éditorial ?
Alors, en fait, je crois que la base, c'est de bien se mettre d'accord, parce que dans un outil de planning édito, on va avoir chaque contenu, on va avoir des champs. Le champ qui, le champ jour, c'est-à-dire le jour de la publication, quel réseau social, un champ qui va reprendre l'accroche du visuel, un champ qui va reprendre éventuellement le visuel, enfin bref, donc on a un ensemble de champs. Et en fait, je pense qu'il y a un premier enjeu, c'est de se mettre d'accord sur quel champ on utilise dans son outil de gestion de projet éditorial. Chez nous, Marlène le dit très bien, il y a la règle des 7 champs, c'est-à-dire on ne va pas mettre plus de 7 champs sur son outil de gestion de projet éditorial, sinon à chaque fois il va être très long à mettre en œuvre et à alimenter.
Ouais.
Donc on va essayer de les limiter et on va bien se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par un état. Un état, c'est quoi ? C'est à faire, en cours, valider, à programmer. On se met bien d'accord sur à quel moment on change un état au sein de l'équipe projet. Parce que bah, on n'a peut-être pas la même façon de voir les choses, donc on se met bien d'accord sur les termes qu'on va employer et surtout à quoi vont servir chacun des champs et comment on les exploite.
Et pour pas que ce soit le bazar et qu'on travaille tous de la même façon.
Ouais, et puis qu'on ait une personne qui dit « Ah, mais j'avais pas compris ça comme ça », etc. Donc il y a vraiment une phase où il faut qu'on se mette bien d'accord, que ce soit au sein de l'équipe projet social media, mais même aussi avec le client, sur à quoi nous servent les champs, comment on les utilise, etc. Et puis il y a un deuxième enjeu qui est hyper important, je pense, c'est d'impliquer les clients en fait, sur l'outil de planning édito. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que quand vous prenez la parole sur les réseaux sociaux pour un client ou même pour votre entreprise, in fine, vous avez un directeur de publication, une personne qui est responsable de la publication, c'est souvent le dirigeant. Eh bien, ce dirigeant, il doit valider les contenus. Et pour valider les contenus, il doit être sur le planning édito. Mmh. Et pour qu'il soit sur le planning édito, ben, en fait, il faut que ça soit facile à utiliser pour lui. Et c'est en ça que parfois les tableurs, Google Agenda, ça marche pas parce qu'en fait le dirigeant ça lui convient pas.
C'est trop regardé.
C'est pas trop regardé, etc. Ce qui est pas mal avec Zenkit, c'est que vous avez une appli mobile, comme Trello d'ailleurs, et ce qui fait que nous on a beaucoup de clients qui vont nous valider les contenus directement depuis l'appli mobile. J'ai un client en Paris. Où je lui envoie 3-4 publications à la suite et il me dit moi quand je suis dans le métro je regarde ce que tu m'envoies, si c'est ok pour moi je le valide directement depuis mon téléphone. Donc c'est hyper facile, il faut que ça soit facile à valider aussi par le client. Il ne faut pas que ça soit un outil en plus, comme on entend souvent c'est encore un outil en plus qu'il va falloir que je fasse rentrer dans mon quotidien. Oui. Donc il faut que ça soit vraiment confortable pour le client et que ça lui apporte vraiment un gain de temps. Oui. En fait ce gain de temps il est aussi permis par le petit onglet commentaire pour chaque contenu, parce qu'en fait parfois ils se souviennent plus de ce qu'ils nous ont dit ou ce qu'on s'était dit 2 mois auparavant, et l'onglet commentaire permet vraiment d'historiciser les discussions, de vraiment de se souvenir ce qu'on s'était dit à l'instant T sur une publication. Donc ça c'est vraiment essentiel.
Et puis au niveau global, il y a même un champ avec, qui reprend tous les derniers commentaires déposés. Donc si tu envoies 4-5 commentaires d'un coup, ton client il a la liste des 4-5 commentaires que tu lui as laissés, puisque lui il a accès qu'à un seul planning éditorial.
Oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'est vraiment des petits tips, c'est de bien se mettre d'accord et puis surtout de choisir un outil qui est facile à utiliser pour la personne qui vous valide les publications. Ouais. Ça c'est essentiel, sinon ça ne marchera pas. Globalement les petits plus, et puis après moi je pense vraiment qu'un bon outil de planning édito c'est un outil où on va pouvoir filtrer les contenus, filtrer selon les états, voilà, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui n'a pas été commencé, qu'est-ce qui n'a pas été validé par le client, et puis surtout filtrer aussi par réseau, qu'est-ce qui est prévu pour Facebook, qu'est-ce qui est prévu pour Twitter, qu'est-ce qui est prévu pour LinkedIn, parce que parfois on a besoin en tant que social media manager de savoir un petit peu ce qui est prévu par réseau ou ce qui reste à faire.
Ouais.
Donc un bon outil c'est un outil qui permet de faire du filtrage, et ça c'est vraiment essentiel, c'est un gage de productivité. Voilà, c'est vraiment ça pour moi le conseil donc que je pourrais vraiment recommander aux personnes qui réfléchissent à mettre en œuvre un planning édito.
Ça marche. Et bien sûr, on recommande plus l'utilisation de Zenkit.
Bah oui, en tout cas, c'est aujourd'hui celui qui nous convient bien. Mmh. On l'a testé auprès de quasiment tous nos clients. On n'en a aucun qui a eu de problème avec. Donc effectivement, c'est celui qu'on va systématiquement recommander. Maintenant, si demain, on a un client qui nous dit « Je veux absolument travailler avec Trello », on s'adapte.
Voilà. Jusque-là, nos clients sont assez contents de ce fonctionnement.
Oui. Et puis c'est hyper simple d'utilisation. L'avantage de Zenkit, c'est comme Trello, c'est que si vous avez besoin de créer des champs, des nouveaux champs personnalisés, vous êtes assez libre. Ce qu'on peut pas forcément faire avec d'autres outils. Donc voilà. Ce qui est vraiment important, c'est un troisième conseil, c'est la capacité à personnaliser l'outil, à créer de nouveaux champs, peut-être de mettre des codes couleurs, etc. Parce que ça, c'est vraiment essentiel en phase de gestion de projet.
Ah les codes couleurs, c'est la vie. Hein.
Exactement.
Toi, c'est les filtres, moi, c'est les couleurs. C'est comme ça que je me retrouve.
On sait exactement si c'est le feu ou si on a le temps et on peut partir tranquillement au week-end.
Très bien. Je crois qu'on va arriver un petit peu à la fin. Mm-hmm. Donc, comme à chaque fois, je vais te demander si tu peux nous faire une petite conclusion en 3 mots, de ce sujet sur les plannings éditoriaux.
En 3 mots, pour moi, un bon planning édito, c'est d'abord un outil de suivi, un outil de suivi de projet. Ça, c'est essentiel, savoir où est-ce qu'on en est. On en a beaucoup parlé. Ensuite, c'est un outil qui permet de choisir son mode d'affichage avec des vues filtrées, comme on en a parlé précédemment, parce que pour moi, c'est un gage de réactivité et de productivité. Ouais. Et puis après, c'est un outil qui est accessible. On en a aussi beaucoup parlé vis-à-vis du client, vis-à-vis de l'équipe, mais il doit être simple et facile d'accès pour toute l'équipe projet. Voilà, c'est vraiment le gage d'une collaboration qui est réussie, d'avoir quelque chose qui est accessible et facile à utiliser.
Tout à fait.
Voilà, c'est marrant parce que pendant qu'on enregistre, on vient d'avoir une petite notification Zenkit comme quoi on a un client qui vient de nous faire un retour sur un contenu. Donc voilà, on vous donne quelques infos en off de ce podcast.
Oui, très bien. Eh ben, merci beaucoup à toi, une fois de plus, pour cet échange très intéressant toujours.
Je t'en prie, avec plaisir Gwen.
Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode du pod. Et bonne fin de journée à tous.
À bientôt.
Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. Ensuite, n'hésitez pas à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et profitez-en également pour nous faire part de vos conseils, vos impressions, nous poser vos questions ou faire une suggestion. Qui sait, vos retours pourraient peut-être nous donner des idées pour nos prochains épisodes. Merci beaucoup pour cet échange, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pod.